Un chameau est capable de parcourir jusqu'à 1000 km sans boire. Il peut supporter de perdre jusqu'au tiers de son poids, ce qui est colossal. Quand il arrive à un point d'eau, il va rapidement reconstituer ses réserves, allant jusqu'à boire d'un trait 70 litres d'eau en moins de 10 minutes. Ceci pour dire que tirer l'eau pour abreuver 10 chameaux qui viennent d'affronter la chaleur du désert n'est pas de tout repos. C'est pourtant exactement ce que va se proposer de faire une belle jeune fille. Je continue à lire dans le chapitre 24 de la Genèse en compressant tout au long. Alors le serviteur courut à la rencontre de Rebecca et lui dit « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans sa main et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur étonné l'observa pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Rebecca est polie, courtoise et serviable. Quelle fille! Elle s'est portée volontaire pour aller chercher l'eau nécessaire pour les chameaux. Il ne nous est pas dit quel était le degré de leur soif, mais de toute façon c'est bête. Ça pompe tout ce qu'on veut bien leur donner en prévision des jours arides. Le serviteur Eliezer est étonné de voir que les circonstances semblent indiquer que l'Éternel est en train de répondre à la requête qu'il lui est adressée. Sa mission, qui consiste à trouver une épouse pour Isaac, est peut-être sur le point de réussir. Je continue. Quand les chameaux eurent fini de boire, Eliezer prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda « De qui es-tu fille ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nahor. » Puis il ajouta « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel, et il dit « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » Eliezer rend grâce à l'Éternel qui l'a guidé dans la famille d'Abraham. C'est un grand sentiment de joie qui envahit son cœur parce qu'il se rend compte que Dieu l'avait précédé et tout arrangé en vue de son arrivée près de ce puits d'eau et avait aussi préparé pour lui et sa caravane un endroit où passer la nuit. Les présents qu'il offre à Rebecca ne sont pas des cadeaux de fiançailles, mais un paiement pour service rendu. Leur valeur indique cependant qu'il croit que cette jeune fille est bien celle qu'il cherchait. Quiconque s'en remet à Dieu, en particulier dans les grandes décisions de la vie, jouit du privilège de se savoir guidé par lui. Je continue. La jeune fille courut chez sa mère raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre le serviteur près de la source. Car il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu Rebecca raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit « Viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors ? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. » Eliezer attend près du puits que quelqu'un vienne le chercher avec ses chameaux pour les conduire dans la famille de Rebecca. Le texte présente déjà son frère Laban comme un personnage dont il faut se méfier. Un roi de la négoce et un vieux filou qui viendra sur les devants de la scène plus tard. Il est très intrigué par la générosité de ce serviteur d'un maître qui doit avoir de gros moyens, donc béni de Dieu. Puisqu'à cette époque, la richesse était vue comme une preuve de l'approbation divine. Une caravane de 10 chameaux, ça se remarque dans une petite localité. Laban est très attiré par tout ce qui en jette, qui brille, les richesses de ce monde. Je continue. Alors le serviteur entra dans la maison, et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds, ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis il leur servit le repas, mais le serviteur prit la parole. « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Eh bien, parle !» lui dit Laban. L'hospitalité voulait qu'on s'occupe d'abord des bêtes et lave les pieds des visiteurs, et la politesse orientale interdisait d'interroger ses hôtes avant qu'ils ne se soient restaurés. Mais Eliezer n'a pas faim, parce qu'il est sûr des chardons ardents. Sa mission est trop importante pour en différer l'objectif plus longtemps. Il est impatient et veut savoir tout de suite s'il a vraiment frappé à la bonne porte. La démarche d'Abraham de chercher une épouse dans sa famille d'origine était d'inspiration divine, car elle entrait dans le cadre de la promesse que l'Éternel lui avait faite. Eliezer, un bon serviteur, a ses priorités bien ordonnées. Le service de Dieu en premier, et ensuite seulement vient le besoin de sa personne. Il a beaucoup de domaines que Monsieur Tout-le-Monde croit importants. La politique, l'économie, les transports, la bourse, les études, le bureau, les voyages et surtout le week-end et les vacances à skier ou en planche à voile. Vous pouvez y ajouter tout ce qui vous plaît. Mais toutes ces activités sont passagères et finiront avec chacun d'entre nous dans la tombe. Périssables, elles ne sont pas cotées dans le royaume des cieux, où ce qui compte, ce sont les choses éternelles que nous découvrons au fil des pages des textes sacrés. Eliezer croit que Dieu est intervenu en sa faveur, mais comme il vit dans l'espace-temps, il a aussi besoin de preuves concrètes. Alors, il annonce ses couleurs qu'on pourrait appeler la demande en mariage. Je continue. « Je suis le serviteur d'Abraham, dit-il. L'Éternel a richement béni mon maître, et il a fait de lui un homme important. Il lui a donné des moutons, des chèvres et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des hommes. » Dans ses vieux jours, Sarah, la femme de mon maître, lui a donné un fils à qui il a fait le don de tout ce qu'il possède. Or, mon maître m'a fait prêter serment en disant « Tu ne feras pas épouser à mon fils une cananéenne du pays où j'habite, mais tu te rendras dans la famille de mon père, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. » J'ai répondu à mon maître « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a dit alors, « J'ai toujours vécu selon la volonté de Dieu. Il enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage pour que tu trouves une femme pour mon fils dans ma parenté, dans la famille de mon père. » Le serviteur se présente et explique pourquoi il est ici, en précisant exactement son objectif. Il raconte comment les choses se sont passées autour du puits, sa prière et la venue de Rebecca qui a abreuvé les chameaux. Finalement, il ajoute, « J'ai loué l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin chez la petite nièce de mon maître. Et maintenant, si vous voulez témoigner une véritable bienveillance à mon maître, dites-le-moi. Sinon, dites-le aussi pour que je me tourne d'un autre côté. Autrement dit, si je me suis trompé, ce qui est toujours une possibilité, dites-le-moi afin que je continue mes recherches ailleurs. » C'est intéressant, parce que d'une part, il remercie l'Éternel de lui avoir fait réussir sa mission, et d'autre part, il n'en est pas sûr. Serait-il en train de faire monter la pression sur cette famille et sur Rebecca en particulier pour qu'on règle l'affaire au plus vite? Je pense qu'il croit vraiment que cette fille est celle que l'Éternel a choisie. Mais tous les êtres humains sont libres de dire oui ou non à la volonté de Dieu. Il en est donc de même pour Rebecca et sa famille, qui peuvent refuser la demande en mariage. Je continue. Laban et Bethuel répondirent : Tout cela vient de l'Éternel. Que pourrions-nous dire de plus en bien ou en mal ? Voici Rebecca, elle est là, devant toi. Prends-la, emmène-la et donne-la comme épouse au fils de ton maître, comme l'Éternel en a décidé. Le père et le frère de Rebecca avaient la même foi monothéiste qu'Abraham et reconnaissaient que l'Éternel a guidé son serviteur jusqu'à eux. C'est Laban qui a un rôle prépondérant dans ce récit, alors que Bethuel, le père, n'apparaît qu'au second plan. Dans le pays où la polygamie était pratiquée, c'est le frère de même sang qui est le protecteur de ses sœurs. Il en est d'ailleurs toujours ainsi aujourd'hui dans les pays de foi islamique et par extension dans les familles musulmanes qui vivent en Occident. Cette façon de faire peut tout d'abord nous paraître curieuse à cause de notre culture. Mais tout compte fait, que les frères protègent leurs sœurs semble plutôt une bonne chose, surtout par les temps qui courent avec la désintégration de la famille. Par ailleurs, même si le père et le frère acceptent de donner Rebecca, elle n'est pas une simple marchandise, car elle possède un droit de veto. Je continue en compressant. Lorsque le serviteur entendit ces paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel, puis il sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements pour les donner à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après cela, lui et ses compagnons mangèrent et burent, puis ils passèrent la nuit dans la maison. Le lendemain matin, tôt, il dit « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui. » Alors ils firent leur adieu à Rebecca, leur sœur, et à sa nourrice, et aux serviteurs d'Abraham, ainsi qu'à ses compagnons. Eliezer veut conclure l'affaire dès que possible, de façon à rentrer au plus vite. Il sait que son maître est dans l'expectative. Et on peut supposer qu'Isaac aussi languit d'impatience, se demandant si Eliezer va lui ramener une épouse ou pas, comment elle est, et tout ça. La décision de Rebecca, un simple oui, n'était sans doute pas facile à prendre. Jusqu'à présent, cette belle jeune fille, aux yeux d'amande, a eu une vie bien ordonnée, faite du train-train quotidien. Arrive une caravane, et, bonne fille, elle leur donne de l'eau. Alors tout à coup, son univers tranquille bascule, les choses vont très vite, et elle se trouve au centre d'une histoire peu commune. Elle écoute attentivement le récit d'Eliezer concernant la vie de son grand-oncle Abraham, dont elle a plus ou moins entendu parler. Elle apprend que l'Éternel l'a béni et a établi une alliance éternelle avec lui et qu'il lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et tout ça. Eliezer a expliqué que la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse, fut miraculeuse, qu'il a été offert par son père en sacrifice à l'Éternel, qu'il aurait un grand rôle à jouer dans le dessein grandiose de Dieu, et pour cela, il devait épouser une fille de la famille d'Abraham. C'est alors que les regards se sont tournés dans sa direction. Est-elle d'accord pour quitter sa vie de relatif confort, où tout est bien structuré, et partir pour rencontrer dans un pays lointain qu'elle ne connaît pas son futur mari, qu'elle n'a jamais vu? Je me rappelle le récit dans l'Évangile, où l'ange Gabriel vient rendre visite à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle avait été choisie pour donner naissance au Messie. Sans hésitation, Rebecca, comme plus tard Marie, à accepter le plan de Dieu pour elle. Tout au long de ce récit, Eliezer apparaît comme un serviteur et croyant modèle. On comprend pourquoi c'est lui l'homme de confiance et l'intendant de tous les biens d'Abraham. Il a obéi à son maître à la lettre. Il ne prend pas d'initiative personnelle, mais va exactement où il est envoyé en ne faisant que ce qui lui a été ordonné. Ensuite, il demande l'aide de l'Éternel et lui exprime sa reconnaissance. Finalement, il ne dit rien concernant lui-même, jouant à fond le rôle d'un ambassadeur qui négocie pour le compte de ses maîtres Abraham et Isaac. Il mentionne en passant le gros héritage que ce dernier va toucher. Ça peut faire pencher la balance du bon côté. De plus, une caravane de 10 chameaux, richement chargée de cadeaux, ça impressionne toujours, surtout des gens comme Laban, le frère argentier de Rebecca. Isaac est un homme de bonne famille, qui est béni de l'Éternel. En langage familier, on dira qu'il est BCBG, avec un gros compte en banque. Un autre point positif concernant Eliezer est qu'il présente clairement la raison de sa démarche et réclame une réponse précise. Il ne fait pas du tourisme, mais veut mener à bien sa mission le plus rapidement possible. Je continue. Alors ils firent leur adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice Déborah et aux serviteurs d'Abraham ainsi qu'à ses compagnons. Et c'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca avec lui. Dans les familles orientales, la nourrice était une personne très importante qui restait attachée à sa maîtresse jusqu'à sa mort. Le texte ne s'étend pas sur le voyage, mais chevaucher un chameau n'est pas de tout repos. Les Orientaux sont habitués à la vie dure à laquelle on les soumet dès leur temps d'enfance. Il y a des chances que pour Rebecca, l'anticipation de rencontrer son futur mari, après tout ce qu'elle a entendu dire de lui, occupa toutes ses pensées de jeune fille prête au mariage. Ces 3 jours passèrent à toute vitesse. Elle ne remarqua même pas que le chemin était trop rocailleux par endroits et que son chameau se balançait de droite à gauche plus que d'habitude parce qu'il ne connaissait pas le chemin. Je continue. Isaac s'était établi dans la région du Négev et il revenait du puits de l'Akelroï. Le soir, il était sorti seul dans les champs pour méditer. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Isaac a commencé à faire sa vie avec des troupeaux et des serviteurs que son père lui a donnés. Isaac est un homme de destinée, héritier de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il n'est donc pas étonnant qu'il nous soit dit qu'il était dans les champs à la tombée de la nuit à se promener tout en réfléchissant. Il ne manquait pas de sujets de réflexion et se posait sans doute des tas de questions sur son avenir et sa future épouse. Les Écritures encouragent la méditation. Je lis un passage. « Celui qui réfléchit, qui considère les choses, qui est attentif à ce qui se passe, trouve le bonheur. » Je finis ce chapitre. Rebecca aussi leva les yeux. Elle vit Isaac et sauta à bord du chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et se couvrit le visage. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prit pour femme, elle aima. C'est ainsi qu'il fut consolé de la mort de sa mère. À cette époque, et encore aujourd'hui, dans certains pays orientaux, la jeune fille doit se présenter voilée à son fiancé. C'est l'origine en Occident du voile de la mariée que l'époux soulève pour l'embrasser lorsque tous deux ont été prononcés mari et femme par l'officiant de la cérémonie religieuse. Le texte dit qu'Isaac Emma Rebecca. C'est une véritable histoire d'amour. De nos jours, sous nos tropiques, ce n'est pas comme ça qu'on choisit sa compagne. Mais il me semble que cette façon de faire, tout orientale, a plus avantage sur la nôtre. Le premier étant que c'est Dieu qui l'a initié et il nous connaît bien.